Chapitre 7. Les rêves s'enchaînaient. Henri se moquait de sa peau noire. Un collègue de la faculté de médecine l'empêchait de justesse de commettre une grave erreur pendant une ablation des amygdales. Elle marchait sur une plage de sable sous un ciel nuageux. Un personnage, vêtu d'une grande cape, lui faisait signe d'approcher dans le lointain.
La mort,
se dit-elle. Mais ce n'était qu'une mauvaise plaisanterie. Lorsqu'elle fut assez proche pour prendre sa main tendue, Max Puckett repoussa son capuchon et éclata de rire. Elle rampait dans un boyau souterrain obscur. Ses genoux écorchés étaient en sang.
« Je suis là !»
fit la voix de Cathy.
« Où ?»
demanda Nicole.
« Derrière toi, maman !»
répondit Benji. Le niveau de l'eau montait à l'intérieur de la conduite.
« Je ne peux les retrouver. Je ne peux les aider. »
Elle nageait avec difficulté, à contre-courant. Les flots l'emportèrent. Elle était dans un ruisseau, au cœur d'une forêt. Les épines d'un buisson accrochèrent ses vêtements. Elle se redressa et partit sur un sentier. C'était la nuit. Elle entendait des oiseaux et voyait la lune à travers le feuillage. Elle atteignit une bifurcation.
De quel côté dois-je aller?
Viens avec moi,
lui dit Geneviève en sortant du sous-bois pour la prendre par la main.
Que fais-tu ici?
S'enquit Nicole.
Je pourrais te poser la même question.
Cathy approchait, très jeune.
Bonjour maman,
fit-elle en prenant son autre main.
Je peux me promener avec toi?
Bien sûr, ma chérie, lui répondit Nicole. La forêt était plus dense. Elle entendit des pas derrière elle et tourna la tête sans s'arrêter. Patrick et Simone lui sourirent.
Nous voici presque rendus,
dit sa fille aînée.
Où allons-nous?
S'enquit-elle.
Vous devez le savoir, Madame Wakefield. C'est vous qui nous avez demandé de vous rejoindre,
déclara Maria, qui marchait à côté de Patrick et de Simone. Ils atteignirent une petite clairière. En son centre brillait un feu de camp. Homais en fit le tour pour les accueillir. Lorsqu'ils eurent formé un cercle autour des flammes, le chaman pencha la tête en arrière afin de psalmodier une mélopée sénoufaux. Nicole le regarda. Son visage pelait et les lambeaux de peau qui tombaient mettaient son crâne à nu. Mais il n'interrompait pas son chant pour autant.
« Non, non !»
cria Nicole.
« Maman !»
fit Benji.
« Réveille-toi, maman. Tu fais un vilain rêve. »
Elle se frotta les yeux.
« Quelle heure est-il ? »
C'est tard, maman. Kepler est allé prendre son petit déjeuner. On voulait te laisser dormir.
Merci, Benji.
Elle se déplaça et sa hanche la fit souffrir. Elle regarda de toutes parts et se souvint que Patrick et Naï étaient partis.
Pour toujours.
Tu veux prendre une douche? Je peux t'aider à te déshabiller et à aller dans la cabine. »
Elle regarda son fils, qui était désormais presque chauve.
« Je me trompais sur ton compte, Benji. Tu peux te passer de moi. »«
Merci, ce serait très gentil. »
Lorsqu'elle fut nue, il la prit dans ses bras et l'emporta pour s'arrêter après avoir fait deux pas.
« Qu'y a-t-il ? » Je n'ai pas pensé à régler l'eau,
expliqua-t-il penaud. Il retourna la poser sur le lit, puis alla réparer son oubli.
Tu l'aimes bien chaude, hein?
Oui,
répondit-elle. Il revint la chercher quelques secondes plus tard.
J'ai mis deux serviettes par terre pour que tu sois mieux.
Merci, mon fils.
Pendant que l'eau ruisselait sur son corps, il lui parla et lui apporta du savon et du shampoing. Il l'aida ensuite à se sécher et à se vêtir avant de la porter jusqu'au fauteuil roulant.
« Encore merci. Je ne sais comment j'aurais fait sans toi.
Pouvoir t'aider m'a fait plaisir, maman.
Je t'adore, Benji. Et maintenant, que dirais-tu d'aller prendre notre petit déjeuner ?»«
C'est ce que j'avais prévu, » affirma-t-il en souriant.
Ils étaient encore à table dans la cafétéria quand l'aigle vint lui dire
« Nous vous attendrons dans votre logement, le docteur Bleu et moi. Nous voudrions vous faire passer un examen complet. »
Ils avaient déjà installé leur matériel lorsqu'elle revint. Le docteur Bleu lui injecta des microsondes dans la poitrine, puis dans la région des reins. Les extraterrestres se parlèrent en couleur pendant la demi-heure que dura la visite médicale, ce qui fascina Benji.
« Comment avez-vous appris ça ? » demanda-t-il à l'aigle.
« Je n'ai rien appris, à proprement parler. Mes concepteurs ont simplement ajouté deux modules à ma structure, un qui me permet d'interpréter les couleurs, l'autre d'en afficher sur mon front. »
« Vous n'êtes pas allé à l'école ?»«
Non.
Vos concepteurs ne pourraient pas en faire autant pour moi ?»
L'aigle se tourna et le dévisagea.
« J'apprends lentement, » ajouta Benji. « Ce serait merveilleux si on pouvait mettre directement toutes ces choses dans mon cerveau. »
Nous n'en sommes pas capables.
À la fin de l'examen, l'aigle lui demanda de préparer les bagages de sa mère.
Où allons-nous ?
S'enquit-elle.
Prendre la navette. Je désire faire le point avec vous sur votre état de santé et vous conduire là où nous pourrons vous soigner rapidement en cas d'urgence.
Le médicament bleu et toutes les sondes ne...
« Nous en parlerons plus tard, »
l'interrompit-il. Il prit le sac qu'avait préparé Benji.
« Merci pour votre aide, »
lui dit l'extraterrestre.
« Voyons si j'ai bien compris, »
déclara-t-elle dans le micro de son casque quand la navette fut à mi-chemin du point nodal.
« Mon cœur va lâcher dans 10 jours plus tard. » Mes reins en sont au même point et mon foie est en piteux état. Ce résumé est-il exact ?
Oui,
répondit l'aigle. Elle réussit malgré tout à sourire.
Vous n'avez pas de bonnes nouvelles à m'annoncer ? Vos facultés cérébrales ne sont aucunement amoindries et votre hanche se fera bientôt oublier. Si rien ne flanche entre-temps, vous me proposez d'entrer dans un hôpital où tous les organes défectueux seront remplacés par des prothèses qui rempliront leurs fonctions. Peut-être faudrait-il en profiter pour procéder à d'autres échanges. Votre pancréas a dératé, et je ne parle pas de votre système reproducteur.
Elle secoua la tête.
Le reste finira également par flancher. Que renouvellerez-vous ensuite ? Mes poumons, mes yeux ? Irez-vous jusqu'à une transplantation cérébrale quand je serai gâteuse ? C'est réalisable. J'ai conscience que c'est irrationnel, mais la perspective de devenir un être hybride ne me séduit guère. Que voulez-vous dire ? À quel stade cesserais-je d'être Nicole Desjardins Wakefield? Quand ne serais-je plus une femme, mais un robot? Vous êtes médecin. Pensez à un schizophrène qui doit prendre régulièrement des médicaments pour modifier ses fonctions cérébrales. Est-ce toujours le même individu? Je saisis le fond de votre pensée, mais je ne suis pas convaincu pour autant. J'ai cru comprendre que j'avais le choix. Si c'est exact, je refuse. Pour aujourd'hui, en tout cas.
L'aigle la regarda un moment, puis fournit de nouveaux paramètres au système de guidage de la navette. L'engin changea de cap.
Nous retournons à l'étoile de mer?
Pas immédiatement. Je veux tout d'abord vous montrer quelque chose. Il avait une bourse à sa taille. Il y prit un petit tube contenant du médicament bleuté, ainsi qu'un étrange appareil.
Tendez votre bras. Je ne tiens pas à ce que vous mouriez pendant le trajet.
Ils approchaient du module d'habitation du point nodal et Nicole se plaignait de la façon dont les passagers de l'étoile de mer avaient été scindés en deux groupes.
Je ne peux vous accuser de m'avoir menti, seulement d'avoir passé sous silence une information capitale. Il est parfois impossible d'agir comme on le souhaite. Qu'aurions-nous dû faire? Annoncer dès le début que nous ne pourrions prendre en charge tous les colons et leurs descendants? C'eût été le chaos. En outre, vous oubliez que nous avons sauvé des milliers d'êtres qui auraient été victimes du conflit et que les passagers du transporteur jouiront d'une existence agréable.
Nicole ne dit rien. Elle tentait d'imaginer quelle serait cette existence. Elle pensa à un lointain avenir quand il n'y aurait plus que quelques vieillards.
« Je ne voudrais pas être le dernier humain survivant, »
déclara-t-elle.
« Il y a 3 millions d'années, une espèce de ce secteur de la galaxie a atteint le stade de la spatio-pérégrination. Cette société s'est épanouie et ses architectes ont construit des palais magnifiques. » Sa sphère d'influence a connu une expansion rapide. Ces êtres se sont implantés sur plus de 20 systèmes stellaires. Ils étaient instruits, sages et bons, mais ils ont commis une erreur fatale.
Laquelle?
Leur équivalent de votre génome contenait bien plus d'informations que le vôtre. C'était le fruit de 4 milliards d'années d'évolution et il était extrêmement complexe. Leurs premières expériences de manipulation génétique, tant sur d'autres espèces que sur eux-mêmes, furent un succès total. Ils élargirent le champ d'application de ces pratiques. Mais à leur insu, la résistance des gènes altérés s'amenuisait de génération en génération. Ils l'ont compris trop tard. Ils n'avaient conservé aucun spécimen originel et ne pouvaient revenir en arrière. Au lieu de vous imaginer comme dernier représentant de l'humanité à bord d'un vaisseau tel que le transporteur, mettez-vous dans la peau d'un des ultimes survivants d'une espèce qui possédait une telle histoire, tant d'œuvres d'art et de connaissances.
La navette franchit une écoutille du module sphérique et s'arrêta doucement contre une paroi. Des ponts roulants vinrent l'immobiliser. Une rampe leur donna accès à une passerelle qui conduisait au centre de transport.
J'étais à tel point absorbé par notre conversation que je n'ai même pas vu où nous allions,
dit-elle en riant. L'extraterrestre se tourna vers elle et fit une chose qui la surprit. Il prit ses mains gantées dans les siennes.
Nous vous avions réservé une surprise, mais en raison de votre santé précaire, nous avons décidé de vous mettre au courant afin d'atténuer le choc émotionnel.
Elle sentit son pouls s'emballer.
De quoi parle-t-il? Que va-t-il se passer?
Nous prendrons un petit véhicule qui nous conduira auprès de votre fille aînée et de son mari.
Quoi?
S'exclama-t-elle en lâchant les mains de l'aigle.
Ai-je bien entendu? Avez-vous dit que je verrais Simone et Michael?
Oui. Essayez de vous détendre.
Mon Dieu, je ne peux le croire. J'espère que ce n'est pas une mauvaise plaisanterie. Comment Michael pourrait-il être toujours en vie? Il devrait avoir plus de 120 ans.
Il a bénéficié de notre magie médicale, pour vous citer.
Et Simone? Simone, est-ce possible?
Elle pleurait. Elle oublia sa hanche douloureuse et se leva pour étreindre l'extraterrestre.
Merci. Oh, merci. Vous ne pouvez savoir à quel point vous me faites plaisir.
L'aigle retint le fauteuil sur l'escalier mécanique. Il descendait au cœur d'un centre de transport identique à celui du point nodal de Sirius. Une demi-douzaine de trottoirs roulants partaient du milieu de la salle circulaire, haute de 20 mètres, et conduisaient à des tunnels voûtés. Sur la droite, diverses structures possédant de nombreux niveaux les surplombaient.
Les navettes qui relient les modules partent de là-haut,
demanda Nicole. Elle se rappelait un trajet à l'intérieur de tel tunnel avec Cathy et Simone, alors très jeunes. L'aigle hocha la tête et poussa son siège vers un des trottoirs mécaniques. Ils s'éloignèrent sur plusieurs centaines de mètres, puis s'arrêtèrent. Une voiture découverte les attendait. L'aigle installa Nicole sur le siège du passager, puis plia le fauteuil et le rangea dans un compartiment. Peu après, il roulait dans un labyrinthe de tunnels blancs cassés. Nicole ne disait mot. Elle essayait de se convaincre qu'elle reverrait dans quelques instants Simone, sa fille, qu'elle avait laissée dans un autre système stellaire des décennies plus tôt. Le voyage lui parut interminable. Soudain, l'aigle arrêta le véhicule et lui déclara qu'elle pouvait retirer son casque.
Sommes-nous arrivés?
Non. Nous venons simplement d'entrer dans le secteur pressurisé.
Ils croisèrent à deux reprises des extraterrestres fascinants. Mais elle était trop surexcitée pour leur prêter attention.
Détends-toi, murmurait la voix de la sagesse. Ne sois pas ridicule.
Lui rétorquait une autre voix.
Je vais retrouver une fille que je n'ai pas vue depuis 40 ans. Comment pourrais-je rester calme?
Bien que très différente, leur vie a été aussi extraordinaire que la vôtre,
disait l'aigle.
Lorsque Patrick est passé tôt ce matin...
Quoi? Il aurait rencontré son père?
Oui. Notez bien que si tout s'était déroulé comme prévu, ni vous ni votre fils n'auriez eu l'occasion de voir Simone, Michael... et leurs enfants.
Leurs enfants? J'ai d'autres petits-enfants.
Avant votre installation au point nodal. Mais quand Patrick a demandé à partir à bord du transporteur, nous avons décidé d'avancer cette entrevue.
Nicole ne put se contenir et se pencha pour déposer un baiser sur les joues emplumées de l'aigle.
Et Max qui disait que vous n'étiez qu'une machine. Merci pour Patrick.
Elle tremblait d'impatience. Un instant plus tard, elle ne pouvait plus respirer. L'aigle s'empressa d'arrêter le véhicule.
Où suis-je?
Demanda-t-elle en émergeant d'un épais brouillard.
Dans le secteur où vivent Michael, Simone et leur progéniture. Vous avez dormi 4 heures de rang.
Ai-je eu une crise cardiaque?
Pas exactement, seulement des palpitations. J'ai préféré attendre votre réveil plutôt que de vous conduire à l'hôpital. J'ai ici tous vos médicaments. Alors, que décidez-vous? Voir votre fille et son mari comme prévu ou aller dans un centre de soins? Vous devrez,
je sais, rester très calme. Mais je veux voir Simone,
même si c'est le dernier acte de ma vie. Avez-vous un calmant qui ne risque pas de m'abrutir ou de m'endormir?
Un léger tranquillisant ne sera efficace que si vous vous efforcez de contrôler vos émotions.
Entendu. Je ferai de mon mieux.
L'aigle prit une route pavée bordée de grands arbres. Nicole pensa à l'automne qu'elle avait passé en Nouvelle-Angleterre avec son père pendant son adolescence. Les feuilles étaient rouges, or et brunes.
C'est magnifique,
dit-elle. Le véhicule vira et longea la clôture blanche d'une prairie. Il y avait dans l'enclos 4 chevaux et 2 jeunes humains.
Les animaux sont des simulacres, mais les enfants sont réels,
précisa l'aigle. Une maison blanche au toit d'ardoise, fortement inclinée, se dressait au sommet d'une petite colline. L'aigle s'arrêta dans l'allée. La porte de la demeure s'ouvrit sur une grande noire aux cheveux grisonnants.
« Maman !»
s'écria Simone en courant vers eux. Nicole eut à peine le temps d'ouvrir la portière que sa fille se jetait dans ses bras. Les deux femmes s'étreignirent et s'embrassèrent en pleurant de joie.